Place aux mots, aux récits et aux auteurs de Dordogne. Voici la rubrique littéraire sur Happy Radio. Happy
Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle rubrique littéraire mensuelle sur Happy Radio. Pour cette première, nous avons le plaisir d'accueillir un invité très cher au cœur de la Dordogne, Jean-Pierre Drilol. C'est un ancien journaliste de longue date à La Voix du Nord et un animateur de Bergerac 95. Et désormais un auteur reconnu de polar enraciné dans notre belle région. Pendant cette rubrique, nous parlons aussi bien de son attachement à la Dordogne que son écriture, de ses personnages et de cette trilogie qui fait vibrer le Périgord. Mais d'abord, on lui dit bonjour.
Bonjour Corentin.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, absolument.
Les vacances ? Même si c'est pas les vacances forcément.
Alors les vacances, oui, ce sont des vacances éternelles pour un retraité, mais non, ça va.
J'aimerais revenir sur votre parcours initial. Avant de devenir romancier, vous avez été journaliste et animateur à Bergerac 95, j'aime beaucoup le rappeler. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de voie pour écrire des romans policiers ?
J'ai pas ressenti ça comme un changement de voie. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est mon goût de l'écriture qui m'a conduit au métier de journaliste quand j'étais adolescent. D'accord. Voilà, j'ai toujours aimé écrire, jouer avec les mots, les atmosphères, les descriptions, etc. Et donc le journalisme m'a paru un choix un peu naturel puisqu'il s'agissait de vivre un événement et d'en rendre compte au début par écrit. Puisque j'ai passé 12 ans dans la presse écrite, à La Voix du Nord, un quotidien régional du nord de la France, avant de venir donc ici à Bergerac 95.
Donc ça représente forcément une grande partie, j'imagine, de ce que vous avez fait dans votre vie.
Oui, absolument. Le journalisme a occupé la totalité de ma carrière professionnelle. D'abord presse écrite, ensuite la radio, qui était un média que, de toute manière, j'aimais bien. Depuis l'école de journalisme, j'avais un goût, effectivement, pour l'écriture, mais également j'avais ressenti une attirance pour la radio dans la mesure où c'était chaleureux, spontané et efficace dans la retransmission d'événements. Il n'y a aucun autre média, je pense, qui est aussi léger que la radio, même si la télé aujourd'hui en est effectivement aux chaînes d'information continue, etc. Rien n'égale à la simplicité de la radio. Vous êtes au bout du monde, vous avez un téléphone portable et vous pouvez faire de la radio.
Est-ce qu'on peut trouver un lien dans vos livres ou dans votre manière d'écrire avec cette façon que vous avez de voir la radio ?
Alors, pas de manière directe. Par contre, oui, la question est intéressante, très intéressante, parce que je me suis aperçu... Bon, on sait que l'écriture radio, l'écriture d'un texte pour la radio, est une écriture différente de celle d'un texte pour la presse écrite, par exemple. Là, on n'écrit pas de la même manière. Phrase plus courte, plus simple, rythme beaucoup plus rapide. Et ça... Oui, ça m'a servi, je pense, au moment d'écrire un roman et peut-être de passer au dialogue, peut-être dans des moments pour décrire des scènes d'action où il faut que ça aille vite, où il faut que le lecteur soit un peu tenu en haleine. Et ça, je pense que l'expérience radio m'a effectivement bien servi.
J'aimerais qu'on reparle de vos deux premiers romans. Donc qui ont trois premiers même, on peut le dire maintenant.
Il y en a trois.
Qui ont lancé la série de Duncan Lorimer. Je sais que vous essayez d'aller voir les gens, voilà, d'aller les rencontrer, d'aller à la rencontre. Quel retour vous avez eu de vos lecteurs après chaque sortie ? Est-ce qu'il y a eu un retour différent pour chaque livre ?
Oui, il y a eu des retours légèrement différents, dans la mesure où le premier peut-être a surpris un tout petit peu les gens. Ils ne me connaissaient pas comme romancier, et pour cause, c'était mon premier roman. Ils ont été peut-être un tout petit peu surpris par la construction de ce premier roman, qui était une construction, non pas difficile, mais il y avait des flashbacks, etc. Le deuxième, dont la construction était beaucoup plus linéaire, j'ai eu des retours positifs. Et le troisième, les gens que je connais bien et en qui je fais confiance, parce que je sais qu'ils sont honnêtes, m'ont dit « c'est le meilleur ». Voilà, le troisième a été extrêmement bien accueilli par les lecteurs auxquels j'ai pu m'adresser directement. Donc voilà, il y a une sorte de progression, et ce qui me fait plaisir quelque part, c'est que il y a eu un attachement des lecteurs et des lectrices, peut-être surtout des lectrices,
au personnage
de Duncan Lorimer.
Est-ce que vous l'avez voulu, ça ? Se dire, il faut qu'il devienne un peu charmant, j'imagine que c'est ce que vous voulez dire.
La grosse surprise, ça a été ça. Ça a été d'entendre surtout des femmes, des lectrices. D'une manière générale, d'ailleurs, le lectorat du polar, quel que soit le genre du polar, est un lectorat qui est majoritairement féminin. Voilà. Mais là, effectivement, les lectrices m'ont dit oh, « c'est dommage que tu abandonnes ce... » puisque le troisième bouquin marque la fin de la trilogie de cette histoire entre le Périgord et l'Écosse. Et elles m'ont dit « mais c'est dommage que tu laisses tomber ce personnage. Moi, je le trouvais séduisant. » Alors que ce terme « séduisant », je n'ai pas conscience de l'avoir suscité en décrivant le personnage. Le personnage est d'ailleurs relativement peu décrit, sinon par ses actions, par ses pensées, par ses opinions, parfois un peu tranchées. Mais je n'ai pas... j'ai l'impression que le personnage, quelque part, m'échappe.
Bien sûr.
Et ça, c'est amusant et c'est intéressant, parce que ça veut dire que ça marche. Hein, c'est-à-dire que le personnage est rentré dans la vie de mes lecteurs et de mes lectrices, et ça, c'est la plus belle chose pour un écrivain.
Je pense que toute œuvre a besoin d'échapper à la personne qui l'a créée pour qu'elle puisse vivre au travers des gens qui la comprennent.
Très certainement, quel que soit l'art, d'ailleurs.
J'aimerais bien, on a le temps, justement, c'est une rubrique littéraire, donc prenons le temps. Si on part sur comment vous avez créé Monsieur Lorimer, est-ce qu'on peut trouver les origines pour peut-être voir sur qui vous êtes calqué, sur quoi vous êtes calqué, pour comprendre pourquoi ça devient attirant, en fait, aux yeux de ces personnes?
Alors, je n'ai pas pris de modèle, si c'est la question.
Oui, c'est un peu ça. Est-ce qu'il aurait pu avoir quelqu'un de connu à Glasgow?
Non, pas du tout. J'avais choisi donc l'Écosse et en particulier Glasgow parce que ça collait bien à l'histoire que je voulais raconter. Voilà, j'ai eu l'histoire dans la tête avant de choisir l'Écosse et Glasgow, puisque au départ c'était donc un policier d'origine modeste. Je m'étais dit tiens, s'il peut être fils de mineur, c'est bien, c'est le mieux. Et donc je suis allé naturellement vers l'Écosse et vers Glasgow, qui est une ville où il y a beaucoup de disparités sociales. Il y a une très grande différence entre les quartiers pauvres et les quartiers riches. Et ça allait bien avec mon histoire, où on s'aperçoit que le policier en fin de carrière est confronté à une enquête dans les milieux du business. Face à des gens qui ne sont pas très recommandables, et il va se souvenir qu'il est d'origine modeste.
Donc ça va influencer, j'imagine, ses aventures, forcément.
Oui, absolument, absolument, ça influence tellement bien ses choix qu'il se fait virer de la police.
J'aimerais qu'on parle du troisième tome, donc, qui est un peu à part, j'ai l'impression, des autres. Qu'est-ce qui distingue cette nouvelle aventure de Duncan Lorimer?
Ce qui la distingue, en premier lieu, c'est que c'est la dernière.
Hein. Déjà,
j'ai décidé d'arrêter là parce que j'avais peur de me lasser et surtout de lasser les lecteurs et les lectrices en retombant sur des mêmes thèmes, etc. Pour éviter ce risque, je me suis dit je vais arrêter là. Donc il fallait que je trouve une histoire où mon personnage de Duncan Lorimer en aurait assez de se mêler des affaires des autres, de faire des enquêtes en parallèle avec celles des gendarmes, d'agir en sous-main, etc. Et d'aller au secours de la veuve et des orphelins.
Il en a marre.
Il en a un peu marre. Il veut passer sa retraite en Périgord tranquillement et donc il arrête là. Voilà. Et donc c'est ça qui m'a conduit à cette histoire où... comment dire, à la fois, il va réussir dans son enquête, puisque le sujet, on peut le dire en 30 secondes, peut-être.
Oui, c'est ce que je voulais faire juste après.
Voilà, le sujet, c'est qu'il il est confronté à une enquête pour aider un jeune Écossais qui vient de Glasgow, justement, sa ville d'origine, qui vient de Glasgow pour participer à un chantier de fouilles archéologiques. Il s'agit d'un ancien délinquant qui sort de prison et qui participe à un programme de réinsertion mis au point par la police de Glasgow. Ça, c'est un fait réel. Ce garçon-là, il est sur un chantier de fouilles en Périgord et l'archéologue qui dirige le chantier est retrouvé mort. Et donc, c'est le principal suspect. Et Duncan Lorimer dit « c'est pas possible,
c'est
pas lui le coupable ». Il se lance dans une enquête et il réussit dans son enquête. Mais il y a un événement qui fait que, malheureusement, il échoue d'un autre côté, et c'est cet échec qui remet un tout petit peu en question son engagement, et qui lui fait dire, maintenant, tu t'arrêtes, tu profites du Périgord, de la Côte de Jour, de la vue sur la vallée de la Vézère, et point final.
Moi, je voulais revenir sur le fait que, il y avait tout ce contexte archéologique, après des peintures rupestres, Pourquoi ce contexte historique, ce décor, ça vous parle spécialement ?
Oui, ça me parle parce que ma famille, la partie maternelle de ma famille est originaire de ce coin-là, de la vallée de la Vézère. Hein. Donc, depuis que je suis gamin, j'ai toujours fréquenté ces lieux qui sont, enfin, pour moi, c'est magique, aussi bien par les paysages et que par l'histoire. Quand on sait que l'homme a habité ces lieux de la vallée de la Vézère pendant des dizaines de milliers d'années. Et qu'ils ont laissé
des traces.
Des traces. Voilà. Ces peintures préhistoriques sont absolument magiques dans le sens où elles sont remarquables d'un point de vue artistique, mais en plus elles ont une signification. Et cette signification, personne n'a jamais réussi à la traduire. Hein, à dire voilà pourquoi les hommes préhistoriques faisaient ces peintures. Il y a des théories, il y a beaucoup de d'idées qui ont été lancées. On a parlé de chamanisme, on a parlé d'actes artistiques, on a abandonné cette piste d'ailleurs. On sait que c'est lié à quelque chose du mythe, de l'ordre du mythe, de la communication avec peut-être la nature, etc. Mais personne vraiment n'a pu venir à bout de ce mystère, sauf un personnage de mon roman. mais voilà, j'en dirai pas plus. Voilà.
Dans votre discours, vous avez parlé trois fois de magie. Et je trouve ça beau. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important et surtout qui reflète peut-être le Périgord aussi ?
Oui, peut-être. Il y a la magie de certains paysages du Périgord, ça c'est vrai. Et je pense que quand on arrive dans certains endroits, on est saisi par une espèce de calme,
de sérénité
oui, absolument. D'ailleurs, c'est dans ce coin de la vallée de la Vézère, au Moustier, près de Saint-Léon-sur-Vézère, que les bouddhistes ont installé un centre très important dans les années 70, qui est devenu un lieu de rencontre, de réflexion, de séminaire pour des bouddhistes venus du monde entier. Donc, il y a cette magie-là. Et puis il y a la magie donc de ces peintures, c'est phénoménal d'être confronté à ces peintures, de savoir qu'elles viennent de si loin et qu'elles nous échappent. Et alors je suis pas spécialement fan de magie sous toutes ses formes.
C'est pas ce que je voulais dire.
Mais par contre, ce que j'ai essayé de dire effectivement dans ce troisième bouquin, hein, Périgord sur meurtre, c'est que voilà au moins quelque chose qui nous échappe. Dans un monde qui est parfaitement envahi par la technologie, par la rationalité, par la recherche du moindre détail, l'homme veut tout savoir, veut tout dominer, veut tout maîtriser. Et voilà au moins un domaine où il est en échec.
Et il n'a pas le choix.
Et il a guère le choix, sauf de continuer ses recherches.
Et justement, tout ça vous inspire, j'imagine, dans votre texte. Ça vous a inspiré à la construction, parce qu'on a parlé la dernière fois dans la rubrique C'est qui ce Périgourdin, qu'on peut d'ailleurs dire aux auditeurs d'aller écouter, elle est très sympathique. On a parlé de votre construction, vous mettiez quelques mois seulement à construire l'idée du livre, à écrire même le livre. Est-ce que ça vous a aidé à ça? Ça vous a inspiré? À quel moment ça vous a inspiré?
Ça m'a inspiré tout au début. J'avais exploité un certain nombre de thèmes périgourdins dans les deux premiers ouvrages, dans les deux premiers volets, et j'essaie donc de varier les thèmes, d'où l'idée d'arrêter au bout de trois pour pas revenir peut-être un peu sur les mêmes. Et donc la préhistoire est venue de manière tout à fait naturelle. Quand on habite dans la vallée de la Vézère, on est confronté à ces traces du passé. Donc après, la construction est venue toute seule, si j'ose dire, puisque dans chacun de ces trois bouquins, il y a deux histoires, en fait. Il y a l'histoire en Périgord et l'histoire en Écosse. Donc ces deux actions se déroulent de manière parallèle et la préhistoire, c'est venu de manière tout à fait normale au moment de la conception de l'intrigue et puis après ça a déroulé avec mes connaissances. Voilà. Et si effectivement il y a des choses que j'ai dû apprendre, notamment en bouquinant des ouvrages spécialisés sur la préhistoire, mais aussi en passant des coups de fil à des personnes très sympathiques que je connaissais plus ou moins, mais qui ont fait autorité quand elles étaient en activité en Dordogne et qui m'ont très gentiment renseigné sur certains détails, parce que quand vous écrivez, vous êtes toujours confronté aux détails. Même si vous connaissez l'ensemble de la question, il arrive un moment de l'écriture où vous butez sur quelque chose, et ce quelque chose doit être, à mon avis, réaliste. C'est-à-dire que j'aurais mal imaginé écrire quelque chose à propos de la préhistoire s'adressant à un public majoritairement périgourdin, avec des à peu près ou avec des choses fausses. Donc je me suis fait aider, on va le saluer, et également Brigitte Deluc, qui elle est une préhistorienne absolument reconnue, qui a travaillé toute sa vie avec son mari, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, et c'était vraiment un couple qui faisait autorité dans le domaine des connaissances de la préhistoire, et sur un simple coup de fil, ces gens-là nous ont, m'ont tout à fait aidé spontanément. Sans rechigner.
J'ai l'impression que vous avez apprécié l'écriture d'un livre, et c'est pas qu'une impression, vous en avez fait trois, donc forcément vous avez apprécié. Qu'est-ce que ça fait de conclure la saga d'une trilogie, qu'est-ce que ça fait? Comment vous le vivez?
Ah, plutôt bien. Alors effectivement, il y a les reproches, comme je le disais tout à l'heure, les gentils reproches des lecteurs, lectrices. Oh, on en aurait bien pris un autre. Voilà. Bon. Mais ça, c'est un choix. On a la satisfaction, pas seulement d'arriver au bout d'une trilogie, mais d'arriver déjà au bout d'un roman. Oui, c'est une satisfaction parce que c'est quand même une petite aventure de plusieurs mois, même si ça n'est que quelques mois, ça dure quand même. Et donc, c'est bien de pouvoir boucler l'affaire. Et puis, oui, il y a la satisfaction d'avoir fait partager son histoire et puis quelque chose de soi, parce que ce soit de manière consciente ou inconsciente, dans ses écrits, on met toujours quelque chose de soi-même. Et donc, on fait partager son petit monde, et puis on échange, comme vous le disiez justement tout à l'heure, on échange avec ceux qui l'ont lu et qu'on connaît, ou qui viennent vous voir lors de signatures, lors de salons, et c'est intéressant.
C'est vrai que vous en avez fait même à Bergerac, vous avez rencontré les gens. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des retours que vous avez eus? Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes à partager?
Alors, des anecdotes marquantes, non, pas. Enfin, parfois des une lectrice par exemple qui a dépassé les 80 ans, que je connais un peu, qui a lu le premier, et dans le premier il y a un passage où je raconte en détail un match de football. Bon, on est à Glasgow, donc le football, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est une institution et ça a une place sociale très importante. Donc voilà, je raconte un match de football qui remonte à 1967, une finale à l'époque, c'était la Coupe d'Europe, et donc le Celtic Glasgow la remporte. Donc une fierté immense pour cette ville qui n'était pas forcément sous les feux de l'actualité. Et effectivement, ça fait un chapitre. Et cette partie-là, cette dame qui a 80 ans m'a dit « Ah, mais ça, c'est mon chapitre préféré », alors qu'elle ne s'intéresse absolument pas au football et qu'elle n'a jamais vu, elle n'a jamais assisté à un match. Et d'autres, par contre, des amateurs de foot qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que ça vient faire dans ton polar ?» Voilà. Donc, c'est le genre, effectivement, de remarques. Même chose pour les descriptions. Dans les premiers, j'aimais beaucoup les descriptions de paysages, etc. Je les faisais pas très longues. Mais il y en a qui me disaient « Waouh, c'est génial, c'est de la poésie !» Et d'autres qui me disaient « Mais moi, je zappe, ça m'intéresse pas !» Voilà. Donc,
il y a eu de tout, quand même, dans la réception.
Oui. Bien sûr, et ce qui me fait plaisir, c'est que les gens n'hésitent pas à me...
Vous le dire.
À me le dire,
à
franchement, à partager, et voilà. Oui, mais non, les gens s'adressent spontanément à moi. Il y en a, on voit qu'ils ont parfaitement perçu toutes mes intentions dans le moindre déroulement de l'intrigue, et ce ne sont pas forcément les lecteurs que l'on croyait capables de le faire.
Voilà, vous avez été surpris.
Oui, voilà, j'ai été surpris. Et puis pour terminer, peut-être les contacts avec les lecteurs peuvent parfois être utiles d'une manière tout à fait surprenante, puisque je me souviens d'une signature à la librairie Marbot à Périgueux, où une personne est venue, un monsieur, qui a regardé la quatrième de couverture du premier. Il m'a dit « Ah, mais vous intéressez aux mineurs et à la mine, mais vous savez, moi je suis du Nord, je suis d'une famille de mineurs, et est-ce que vous savez que en 1963, les enfants de mineurs grévistes, puisqu'il y avait une très grosse grève des mineurs en France en 1963, on parlait déjà de fermer les mines à cette époque-là, plus d'un mois de grève, et il me dit « Mais les enfants de mineurs, à cette époque-là, pour qu'ils ne souffrent pas des privations de leur famille, qui bien sûr étaient impactées par l'absence de salaire, eh bien ces enfants, on en a envoyé plus de 20 000 dans, un peu partout en France, dans des familles d'accueil, pour qu'ils passent les vacances de Pâques, au moins au chaud. » Et voilà. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une idée romanesque. Et c'est donc l'idée qui a servi à lancer le quatrième bouquin qui va sortir au mois de mars prochain, Meurtre en Périgord pourpre, et où j'évoque cet événement puisque Bergerac a accueilli en avril 1963 une dizaine d'enfants de mineurs venus de Cazeville. Voilà, et ça m'a servi de point de départ après pour une idée que j'ai tricotée à ma façon.
C'était ma prochaine question. J'imagine que ça allait forcément vous manquer d'explorer, de farfouiller pour écrire des choses, même de partager avec les gens. Donc, est-ce qu'on peut parler de votre actualité ? Allons-y. Qu'est-ce que vous nous préparez donc pour cette année ? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus aussi du pitch du livre ? Voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus.
Alors, exceptionnellement, si je veux dire, il y aura deux sorties l'année prochaine, 2026. Mmh. Je viens d'en parler, mars 2026, Meurtre en Périgord pourpre, où donc, on l'a compris, on abandonne Duncan Lorimer. Il s'agit d'une autre équipe d'enquêteurs, du commissariat de Bergerac, à la suite d'un meurtre d'un viticulteur qu'on retrouve au fond de sa cuve, asphyxié, mais c'est pas un accident. Voilà, donc ça c'est sorti en mars, et puis ensuite en juin 2026, donc juin prochain, il y aura un bouquin qui s'appellera « Meurtre à Périgueux », où là c'est une demande de l'éditeur qui, en acceptant le quatrième, celui sur le Périgord pourpre, m'a dit « pourquoi vous ne feriez pas la même chose sur Périgueux ?» Donc voilà, je me suis lancé, c'est en cours d'écriture.
Donc là c'est en cours.
C'est en cours d'écriture.
J'allais vous demander, c'était ma prochaine question, vous avez fait les deux en même temps, mais non, vous avez donc fait l'un après l'autre.
Oui, bien sûr, oui, oui. C'est-à-dire que la série de Duncan Lorimer, entre le deuxième et le troisième, il s'est passé 2 ans d'écart. Donc j'avais un manuscrit d'avance par rapport à mon éditeur, si bien que Meurtre en Périgord pourpre était largement bouclé quand il m'a demandé d'écrire sur Périgueux, donc ça n'a pas été un agenda surbooké, disons.
Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Corentin de m'avoir reçu pour cette nouvelle rubrique à qui je souhaite longue vie.
Oui, on va vous donner une bouteille, on va demander de casser sur le bureau. Le bateau va partir. Non, merci beaucoup de faire vivre aussi le Périgord, c'est ce qu'on essaye aussi de faire vivre dans la radio. Vous le savez très bien, vous avez travaillé ici des années, même ici, quand je dis ici, c'est littéralement, vous avez travaillé dans ce lieu,
oui,
ici,
absolument,
des
absolument.
Années,
la galerie
donc vous savez très bien ce que c'est, merci encore.
Voilà, longue vie à Happy Media.
Merci,
Happy Radio.
À très vite.
Vous venez d'écouter la rubrique littéraire sur Happy Radio, à retrouver en podcast sur happyradio.fr. Happy Radio.